vous écoutez DVRGV Radio.
Il est 11h.
L'émission en direct, c'est maintenant, sur DVRGV Radio.
Bien le bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue en ma compagnie sur DVRGV Radio. Il est 11h exactement, passé d'une toute petite minute. Bienvenue dans cette émission Une Voix, un métier. Et aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur et tout ça de recevoir Jean-Yves qui est avec nous aujourd'hui. Salut Jean-Yves.
Bonjour Manuel, merci de me recevoir.
Eh ben, c'est un énorme plaisir pour nous parce que t'es un sacré personnage et on va essayer d'en apprendre un peu plus sur toi aujourd'hui.
C'est gentil.
Voilà. Alors, pour commencer, Jean-Yves, moi j'aimerais bien que tu te présentes. Qu'est-ce que t'essayes de nous faire un petit récap du bonhomme, qui tu étais avant et voilà, qui tu es en fait, qui est Jean-Yves ?
Qui je suis ? Alors c'est sûr que quand on arrive à 65 ans, on a toujours un parcours, hein, voilà. J'aurais tendance à dire la base de mon vécu, c'est quand même été mon père, car il était artiste peintre, ayant fait les Beaux-Arts de Nantes puis de Paris. Il était pianiste, plutôt très bon pianiste, et c'était un passionné d'aviation. Et j'ai vraiment suivi les traces paternelles, même si effectivement j'ai grandi dans l'odeur de l'huile de lin et les sonorités du piano, j'en ai pas fait un métier. Par contre, de sa passion pour l'aviation, j'en ai fait aussi un métier. Pendant mon enfance, j'ai fait 3 années de conservatoire en guitare classique. Et puis bon, je peignais, guidé par le pater. J'ai pas mal peint. Mais j'ai suivi mes passions pour la mer. D'abord, j'ai été officier de marine marchande pendant une bonne dizaine d'années. Et puis la marine marchande française, après les 2 chocs pétroliers, ne se portait pas bien. Me suis reconverti, j'ai été publiciste marin-pêcheur à Saint-Malo. Et finalement, quand l'aviation, dans la fin des années 80, s'est ouverte, je me suis reconverti comme pilote de ligne. Et après, j'ai fini ma carrière dans l'aviation. Voilà.
Rien que ça. Ouais. Bah, à mon avis, je vais vous le dire, les gars, les filles, parce que alors là, ça grimpe. Hein. Là, le compteur est en train d'exploser sur l'écoute. Donc, bienvenue à vous tous et toutes qui nous rejoignez pour découvrir Jean-Yves. On a parlé un petit peu hein, ensemble juste avant l'émission. Et croyez-moi, il y a du dossier, il y a du lourd sur le bonhomme parce que c'est un grand monsieur.
Oh.
Ah si, j'insiste. et on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi. Parle-nous un petit peu du coup de ton passage en tant que pilote d'avion déjà.
Oui.
Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de cette expérience qui pour moi est fabuleuse?
Alors en fait, les formations de pilotes sont la grande majorité des gens qui sont dans l'aviation viennent des aéroclubs. Évidemment, il y a des gens qui passent par l'armée de l'air. Évidemment, il y a des gens qui peuvent accéder aussi par les concours directs, mais c'est une minorité. Et bien souvent, c'est quand même un métier de passionné. Et c'est vrai que c'est un métier que j'ai adoré. C'est extraordinaire. Bon, dans la fin des années 80, donc 87, je suis rentré chez Air Littoral. Après, j'ai eu beaucoup de chance. Après 2 ans de formation, très rapide, je suis passé de l'aéroclub à Air Littoral comme copilote en l'espace de 2 ans. Et après, ça a été une période où il y a eu une très grosse demande. Donc, il suffisait de mordre dans le coussin et les progressions étaient très rapides. J'ai eu la chance de pouvoir aussi faire beaucoup d'instructions. C'est une chose que j'ai toujours aimé. Et faire de l'instruction, c'est transférer du savoir, c'est transférer de la passion. Et ça, c'est une chose que j'ai vraiment aimé. J'ai été responsable pédagogique du centre de formation d'Air Littoral pendant plusieurs années, pendant 7 ans. Et vraiment, c'était quelque chose de fabuleux. Après, Air Littoral, c'est malheureusement arrêté de fonctionner en 2004. Et j'ai travaillé à l'étranger. J'ai fait de l'aviation d'affaires et les dernières années, je volais pour une très grosse boîte américaine d'aviation d'affaires, NetJet. Mais malheureusement, NetJet, après la crise des subprimes en 2008, a pas mal dégraissé, surtout sur la filiale européenne dont je dépendais. Voilà.
Ok, bah super. Alors donc c'est quand même vachement intéressant. C'est doit être une belle expérience. Combien de temps ça a duré cette expérience du coup de pilote?
De 87 jusqu'à 2011. Voilà.
D'accord. Ah oui, donc belle et longue expérience d'aviation.
Ça a été le métier que j'ai fait le plus longtemps.
Et alors, quel genre d'avion t'as pu piloter?
Alors j'ai eu la possibilité à l'époque, j'avais eu une possibilité de rentrer chez Air Liberté sur des grosses machines et faire du long courrier. Et moi le long courrier ça ne me convenait pas. Donc Air Littoral en aviation régionale, ça m'allait très bien. Quand on avait fait 3 heures de vol, c'était le bout du monde. Et même chez NetJet, je suis resté sur des petites cabines. Mon terrain de jeu c'était l'Europe. Donc, quand j'avais fait 2000-2500 bornes, il me fallait du bitume pour me poser. Et moi ça m'allait très bien. J'avais pas trop envie de faire du long courrier. Je trouvais ça plus intéressant. Puis les petites machines, c'était aussi la possibilité d'aller se poser sur des terrains un peu techniques en montagne. Voilà, ce que l'on ne peut pas faire avec des grosses machines.
Ouais, forcément, ouais. Et ça, donc, ça, c'était aux States, aux États-Unis.
Non, moi, je dépendais. C'est une boîte américaine, NetJet, mais ils ont une filiale Europe, et donc j'avais un contrat anglais.
Ok. D'accord, donc tu speak English very well.
Yes, sir.
Super. Voilà. Alors, ça c'était une période, une très longue période de ta
oui,
vie.
C'est ça.
Aujourd'hui, voilà. Donc, hop, c'est derrière.
C'est derrière.
Quels sont tes projets aujourd'hui, Jean-Yves ?
Alors, j'ai continué à écrire et à faire de la musique, à faire de la peinture et de la musique, et je me suis mis à l'écriture depuis relativement peu de temps. Alors la musique, comme j'avais fait le conservatoire en guitare classique, j'ai malgré tout toujours continué à faire de la musique toute ma vie. Mais c'est vrai que quand on est navigant, que ce soit dans la marine marchande ou dans l'aviation, on n'est pas là pour les répétitions, on n'est pas là pour les concerts, donc c'est très difficile de pouvoir s'impliquer dans un projet collectif, dans un projet de groupe, donc je faisais pas de musique, voilà. Mais ce n'est que qu'en 2011, quand j'ai perdu mon boulot, j'ai même repris de l'école. Je suis allé à l'Institut musical de formation professionnelle à Salon-de-Provence pour faire deux ans de cours intensifs en harmonie et en clarinette pour mon plaisir, pour exceller dans les choses qui me passionnaient. Et puis, je me suis mis à l'écriture en fait assez tardivement, dans les années 2006-7, poussé par à la fois mes enfants que je racontais mes anecdotes dans la marine et dans l'aviation et qui me disaient toujours « Oh papa, faut que tu nous écrives tout ça, faut pas laisser ça comme ça ». Et donc je me suis lancé dans une autobiographie que j'ai intitulée « Traverser les turbulences » qui est publiée chez Books on Demand. Et c'est en fait ça a été un exutoire parce que j'ai eu une période de vie là qui a été assez difficile. En décembre 2007, j'ai un fils qui est mort. Et puis en 2009, j'ai eu un divorce assez douloureux. J'ai eu un incendie en décembre 2009 dans lequel j'ai tout perdu. Et puis 2011, j'ai perdu mon boulot chez NetJet, donc remise en question. Et enfin en 2015, j'ai aussi une fille qui a succombé à un cancer. C'était une période difficile. Et l'écriture était un exutoire et puis une façon de partager les enseignements que je pouvais tirer de tout cela, le dépassement de soi, le lâcher prise, la stratégie de l'acceptation, la stratégie du oui, comme disait Denise Desjardins, et puis l'ouverture à l'humanisme et une certaine sagesse. Vous voulez être heureux ? Soyez-le. On a toujours mille raisons de s'affliger et de se trouver malheureux. On a aussi toujours mille raisons de se réjouir de ce que l'on est. Donc, vous voulez être heureux ? Eh ben, soyez-le.
Ouais, ça c'est un très 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 beau message. Je pense que c'est vraiment important en effet de le passer et c'est une très belle philosophie.
Ah oui.
Voilà ce qui s'est passé.
Oui.
Arriver à rebondir et à continuer comme ça parce que c'est bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Parce
non, surtout pas.
Mais je pense que ça forme le bonhomme et
oui.
Voilà et
ouais,
ça permet d'avancer et puis
tout
de dire d'essayer de relativiser aussi par rapport à tout le reste, tout ce
oui.
qui est beaucoup moins important, qui est beaucoup moins grave et se dire bah en fait voilà, j'ai vécu ça à ce moment-là. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant.
Il faut aller de l'avant. La vie est belle.
Voilà,
la vie est belle.
Exact.
Et là, on a tous nos épreuves. Hein. Je suis sûr que bien des gens qui nous écoutent ont aussi vécu leurs épreuves et leurs souffrances et leurs chagrins. Mais il faut jamais s'arrêter là. Il faut dépasser les choses et il faut accepter. Il faut accepter. Pour le mot clé, c'est l'acceptation. Les gens qui sont dans le refus, dans le déni, dans le refus d'en parler et ils n'arrivent pas à dépasser, c'est dommage. Voilà. Bon.
Ouais, merci en tout cas pour ce très très beau message. Je pense que c'est vraiment intéressant et très très important de le notifier.
Merci.
Pour tes projets actuels, donc ça, on les a vus, hein, c'est oui. surtout l'écriture, la musique.
Bah oui. Alors l'écriture, suite à l'écriture de cette biographie, j'ai découvert le plaisir d'écrire. C'est une activité qui est absolument géniale. Et du coup, je me suis lancé dans des stages. Et j'ai fait quelques rencontres intéressantes. Et du coup, je me suis lancé dans l'écriture d'un premier roman, un roman historique basé sur une anecdote qui est arrivée au père de mon parrain pendant la guerre de 14. Donc c'est un roman dont la base de l'histoire est en 14, dans un domaine de vignerons de Bourgogne. Et donc sur la base de cette anecdote, j'ai tramé toute une histoire qui se finit à la fin du siècle. Ça a été une belle aventure. J'ai passé un an sur cette histoire, notamment par le travail de documentation. Puis l'année dernière, ayant fait le chemin de Compostelle, quand on marche, on a beaucoup de temps pour avoir l'esprit qui divague et qui part dans tous les sens.
Ouais, pour réfléchir.
Et je suis revenu avec une idée précise et j'ai donc écrit un roman qui vient juste d'être publié. Les deux romans sont publiés chez LibriNova. Donc Les Lettres détournées, le premier roman, hein, et puis Le Camino d'Arthur que je viens de sortir chez LibriNova. Voilà. Et actuellement, je suis reparti sur une autre idée qui me tient à cœur, dont je veux utiliser le contexte d'une peuplade du nord du Pakistan qui s'appelle les Kafir Kalash, des gens extraordinaires qui sont les survivants de la race aryenne, de peuplades qui étaient en Asie mineure. Et ce sont des gens extraordinaires qui aujourd'hui pâtissent d'une présence musulmane malheureusement très envahissante et assez brutale pour eux. Et c'est une culture extraordinaire. Donc je n'ai pas du tout vocation à être ethnologue, j'en ai pas les compétences, mais j'ai beaucoup documenté. Il y a eu une magnifique exposition au musée des Confluences à Lyon sur ces Kalashs pendant toute l'année dernière. Et donc je vais écrire un roman, c'est un roman sans prétention, mais je vais utiliser le contexte des Kalashs pour écrire ce roman. Voilà.
Chouette. C'est bien.
Ah ouais, le projet gars, de l'écriture.
Le gars, il est plein de ressources. C'est bien. Non, mais parce que c'est important d'avoir des témoignages comme le tien, Jean-Yves, parce que ça prouve encore une fois que, tu reviens de loin. Le mec, il était aviateur quand même à la base.
Oui.
Et là, maintenant, t'es auteur-écrivain.
Oh, c'est gentil, oui, oui.
Tu vois, ce qui prouve qu'on peut vraiment, à un moment donné, réaliser ses rêves.
Oui.
Et peu importe de là où tu viens.
Ah oui, tout à fait.
Ouais.
Ah oui, tout à fait.
Alors, moi j'aimerais qu'on continue un petit peu sur ton histoire musicale, puisque
oui.
Ça fait aussi partie de ta vie, la clarinette.
Oui.
Alors, parle-moi.
Alors, la clarinette est en fait, j'ai eu quelques soucis au niveau des mains. Je faisais avec la guitare et je faisais des tendinites, c'est complètement idiot, mais voilà. Et du coup, sur le conseil des médecins, j'ai changé d'instrument. Et ma fille, qui est partie en 2015, faisait de la clarinette. Et du coup, je me suis lancé à faire de la clarinette avec elle, ne serait-ce que pour partager des choses avec ma fille. Et puis, aujourd'hui, j'ai une véritable passion pour cet instrument, qui est magnifique. Et puis, quand je suis arrivé à Saint-Marcellin, je ne suis dans la région que depuis un an et demi, je me suis inscrit à la lyre, et à la lyre ils avaient une clarinette basse, et du coup je me suis mis à fond dans la clarinette basse au sein de la lyre. La lyre est un groupe vraiment très sympa avec des gens adorables et ça joue très bien, et je suis ravi d'être au sein de cet orchestre. Et donc là on prépare pour le 28 mars, on prépare un spectacle danse, musique, le retour vers les années 80. Le 28 mars, j'invite tout le monde à aller réserver des places à l'office du tourisme et à la lire. Vraiment, je suis sûr que ça va faire quelque chose de très beau. Très très beau.
De toute façon, ça, on pour ceux, vous qui nous écoutez, on en reparlera. Normalement, on est censé recevoir comment il s'appelle, Laurence et Cathy.
Oui.
Voilà, qui
Katia,
pardon,
ouais,
autant pour
Katia,
moi.
Oui, oui.
Katia, qui viendront nous parler un petit peu justement de ce projet de retour vers les années 80. On a reçu, je sais plus si Bix il est venu, qui nous en a parlé, peut-être brièvement. Il nous a parlé brièvement. Bon, en fait, je rencontre tellement de gens que je sais plus qui me dit quoi. C'est tellement ouf. En tout cas, on va vous en reparler et clairement nous on va y être aussi hein, parce que ouais, c'est, ça vaut le coup d'aller écouter tout ça. Moi hier d'ailleurs j'étais en enregistrement pour faire un petit reportage sur ce beau projet de création de spectacle multi, je sais pas comment on peut dire, multi art.
Oui c'est ça. Ouais.
Hein, parce qu'il y a de la danse, il y a de la musique,
tout à fait, il y a du chant.
Voilà, c'est juste un truc ouf. Il y aura des décors aussi qui seront faits par notre ami Bix.
Exactement.
Donc c'est vraiment un gros projet qu'il faudra aller découvrir donc le 28 mars. On vous en reparlera très prochainement pour l'heure. Donc Yves, continue à nous parler un petit peu de ta clarinette basse.
Alors la clarinette basse, c'est un instrument étonnant parce qu'il y en a finalement relativement peu.
Ouais, alors pourquoi la clarinette basse?
Mais et pourquoi pas? Non mais déjà la tessiture de l'instrument est magnifique. Je trouve que le son de la clarinette, même je joue au sein de l'orchestre et régulièrement il y a les copains de l'orchestre qui viennent me voir en me disant oh, cette clarinette basse vraiment ça a un son fabuleux. Et c'est vrai que bon, je joue aussi un peu de saxophone hein, mais et j'aime beaucoup le saxophone.
Alors,
c'est un bel instrument.
Un saxophone lequel?
Oh ben je joue du ténor.
Je joue du ténor. C'est que j'ai un soprano moi ici.
Ouais. Eh ben voilà. C'est-à-dire que quand on joue de la clarinette, passer de la clarinette au saxophone, oui. C'est pas très difficile parce que les doigtés du saxophone correspondent au premier registre de la clarinette.
Oui, puis en plus, enfin au niveau de l'embouchure, au niveau de hanche,
le bec,
c'est pareil.
C'est à peu près la même chose. Ouais. Mais c'est pas tout à fait exactement, mais ça se rejoint. Ouais. Voilà. Et le gros avantage de ces instruments, si on prend la famille des saxophones ou la famille des clarinettes, les doigtés sont les mêmes. C'est l'intérêt d'ailleurs de ces familles d'instruments. C'est-à-dire que si on en joue un, on est capable de jouer à peu près tous. Bon, il y a des petites différences hein, pour bien les maîtriser, mais voilà. Et la clarinette basse, ben parce que le son est fabuleux, quoi. C'est un instrument magnifique. Hein.
Ouais. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la clarinette basse, c'est Yves?
Est-ce que je suis Jean-Yves? Est-ce que Jean-Yves c'est une clarinette basse? Je ne sais pas.
Le fait de t'exprimer par la clarinette, est-ce que c'est un moyen aussi d'expression pour toi? Parce qu'autant l'écriture, on a compris que c'était quelque chose d'exutoire pour toi. Est-ce qu'on peut dire que la musique et la clarinette basse en l'occurrence, ça peut être aussi quelque chose pour te libérer de quelque chose ou c'est juste un simple plaisir?
J'aurais tendance à élargir le débat. L'art est assisté et tout l'art. C'est ma maison. Quand on écrit, quand on peint, ou quand on fait de la musique, on s'exprime. Et on transmet des choses, on transmet de l'émotion, on transmet... oui, on transmet un peu ce que l'on a, évidemment. Ouais. Évidemment.
Donc,
évidemment.
Donc Jean-Yves est une clarinette basse. Jean-Yves est une clarinette basse, il est aussi un stylo.
Oui.
T'écris au stylo ou t'écris à l'ordinateur?
Oh, j'écris à l'ordinateur.
Ah bon, bah, donc Jean-Yves est un ordinateur. La peinture, parle-moi un petit peu de la peinture. Jean-Yves.
Alors la peinture, j'en ai fait d'une façon très irrégulière toute ma vie. J'ai souvent peint en pensant à mon père, parce que pour mon père, c'était vraiment son activité, c'était son activité pilier. Et voilà, toute sa vie, il a fait des expos, etc. Et c'est vrai que je peins toujours avec l'idée de le faire en référence à lui. Mais la peinture, pour moi, c'est une façon aussi de transcender des émotions. Il y a... j'ai mis sur ma page Facebook quelques photos de mes tableaux et une personne qui me disait et ça m'a fait un plaisir énorme de dire ce que vous peignez c'est de la vibration, c'est vibrant et c'est vrai que ça m'a touché parce que ce que j'aime bien peindre c'est je voudrais arriver à transmettre de l'émotion, à transmettre des choses qui touchent et que les choses me disent, que quelqu'un puisse me dire que quelque part je l'ai touché, c'est comme ça, ben c'est vrai, ça veut dire que quelque part j'ai réussi et ça me fait plaisir.
Mais je continuerai en te disant que tu nous touches, en tout cas moi tu me touches avec cette énergie là que tu dégages. C'est complètement dingue. On dirait que le gars il est monté sur pile mais il envoie du lourd hein. C'est impressionnant l'énergie positive que tu dégages et ça c'est génial.
C'est gentil.
Donc il faut continuer dans ce sens en tout cas. Tes projets futurs, Jean-Yves, c'est quoi?
Alors les projets, le prochain événement, grâce à Barbara Inizan qui est passée ici cette semaine, nous allons faire une exposition qu'on avait intitulée Écho. Écho, écho. au Métalab, donc 1 bis rue de Beauvoir.
Je peux t'en mettre de l'écho, hein, fais gaffe. Je sais pas si je l'ai chargé, mais attends. Hop, oui, je... Ah non, ça c'est la voix de, Dark Vador, mais non.
Non, c'est pas pareil. Voilà, donc on fait une exposition tout le mois de mars, du 3 au 29 mars. L'exposition se fait en collaboration avec Simon Dupuis, un excellent sculpteur, bien plus jeune que moi. Si vous voulez voir ses sculptures, vous pouvez aller sur www.sculteos, comme sculpture, et vous T-H-E-O-S à la fin. .com. Très étonnant, très belle sculpture, très inspirée. Et donc nous allons faire ensemble cette exposition pendant tout le mois de mars. Le vernissage aura lieu le 6 mars à 19h. C'est le magasin s'appelle Métalab et c'est l'association Métaformose, voilà. Donc qui gère ce lieu.
Donc il se trouve au 1 bis rue de Beauvoir à Saint-Marcelin.
Exactement.
Voilà, c'est
donc
ça
c'est le premier projet. Le deuxième, eh bien, je vais participer au Salon des artistes de Saint-Marcelin. Voilà, et donc du 2 au 16 avril avec un vernissage le 2, et puis bah participer au concours pour le prix des concours seront délivrés le 16 à 18h30. Voilà. Le thème c'est le temps, tempo, ouais. Ça me va bien. Et du coup, comme je m'étais renseigné un peu en avant, j'ai commencé à préparer des toiles. J'ai fait un grand format sur le thème du temps, un grand sablier avec des visages à l'intérieur. Et puis, tempo aussi, des tableaux sur la musique. Mais, évidemment, un peintre musicien, que voulez-vous qu'il fasse ? Des tableaux, ouais, sur la musique.
Bah oui, avec un petit peu d'écriture dedans. Et puis,
et bon, ben voilà.
Hein, on a résumé, ben voilà. Jean-Yves. C'est
voilà.
Ça ?
Voilà, voilà.
Bon, ouais, c'est super. Est-ce que tu voudrais justement peut-être communiquer des moyens pour voir ce que tu crées, notamment le titre de ta page Facebook ou un site internet ?
Alors, sur la page Facebook, il suffit déjà de taper mon nom. Jean-Yves Quentric, Quentric. Et il y a une page plus spécifique, la page selon Jean-Yves Quentric, donc où on a quelques informations concernant les bouquins, et il y a une galerie avec les tableaux. Voilà. Et puis, sinon, il y aura donc cette expo au Métalab.
Ah oui, alors la fameuse expo au Métalab, voilà. Où du coup on pourra te rencontrer aussi.
Et on pourra nous rencontrer, bien évidemment. Évidemment. Bon. Alors l'idée aussi de Barbara, et c'est assez intéressant, c'est de pouvoir organiser des journées d'ateliers, donc de réflexion sur l'écriture, parce qu'en fait avec Simon Dupuis nous avons un point commun, c'est le fait d'associer le visuel à l'écriture. Lui-même il est sculpteur, mais il accompagne ses sculptures de textes qui sont un peu oniriques, poétiques, et qui viennent faire un écho justement sur ces sculptures. Et donc en ce qui me concerne, j'ai l'écriture qui vient. Alors il y a pas de corrélation comme avec Simon entre mon écriture et les tableaux, mais il y a quand même quelque chose de comparable, d'associer l'écriture et le visuel.
Est-ce que tu vends tes tableaux?
Oui. Bah, d'ailleurs, le tableau sur le temps que je vais présenter pour le concours de peinture, il est vendu. Il est déjà vendu.
Elle est pas belle, la vie.
Ouais, l'ayant mis sur la page Facebook, il y a des gens qui ont vu le tableau, qui se sont déplacés, qui sont venus le voir, et voilà, le tableau est vendu.
Bon, c'est génial. Oui. En tout cas, Jean-Yves, c'était vraiment on a fait le tour, hein, je pense.
Ah, il y a une chose, si tu veux bien.
Vas-y,
il y a une chose
que
j'aimerais bien, dont j'aimerais bien parler. Justement, tu faisais allusion à Bix.
Ouais.
Et avec Bix, qui joue aussi à la lyre, hein, qui est trompettiste à la lyre. Excellent trompettiste à la lyre.
On vient nous rendre visite.
Alors.
Vas-y.
Entrez.
C'est du direct, hein, c'est pour ça. C'est Amélie. Ah non, c'est Zoé. Bon. C'est Zoé qui vient nous rendre une petite visite. Alors vas-y, on t'écoute, Jean-Yves.
Donc. Oui, donc avec Bix, on est en train de réfléchir pour créer une association,
ouais,
d'artistes créateurs. L'association n'est pas encore déposée en loi 1901 au journal officiel, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on est toujours en train de réfléchir sur le nom. Parce que c'est toujours délicat de choisir le nom d'une association. Soit on prend un nom très, très rigolo et très fantaisiste, mais qui n'a pas un sens très, très évocateur. et c'est un peu gênant. Soit on a un nom très évocateur, mais qui fait un peu administration. L'association des artistes créateurs de Saint-Marcellin. Et ça fait, bah, ça manque un peu de peps. Donc on, voilà, on est en train de chercher. On va trouver.
Donc cette association, elle sert à quoi?
Alors le but de l'association, c'est de rassembler des gens qui sont créateurs dans des disciplines différentes. Moi, j'ai souvent observé. Les gens sur les territoires, les peintres sont entre eux, les sculpteurs sont entre eux, les musiciens sont entre eux, mais entre disciplines, les gens ne fonctionnent pas très très bien. Et si on veut pouvoir développer des sujets, des projets, des expos, des projets artistiques ensemble, en associant justement ces disciplines, on peut arriver à faire des choses très intéressantes. Et puis ça permet aussi de se rencontrer, de se connaître, d'échanger sur ce que l'on fait de notre art. Et je trouve ça très intéressant. Donc il y a des gens, on commence à voir des gens qui se sont associés à cette idée. Et je trouve qu'il y a Elisabeth Bourgeat qui est peintre à Châtes depuis plus de 40 ans, 50 ans. Voilà. Je pense qu'on pourra faire des choses intéressantes. Et le premier événement sur lequel on va travailler, et on va s'y mettre très vite, c'est de créer sur l'agglomération Saint-Marcellin et Châtes un parcours de l'art. Comme cela se fait à Avignon depuis maintenant une quinzaine d'années avec beaucoup de succès. Au début, ça ne fonctionnait que sur le week-end. Et maintenant, c'est devenu un événement qui dure la semaine. Et c'est vraiment le deuxième événement d'Avignon. Après, évidemment, le festival, le célébrissime festival. Mais l'idée, donc, est de créer un parcours de déambulation pour le public qui va de lieu d'exposition en atelier de peintre, en magasin. Ça peut être, par exemple, la librairie Marc Page qui accueille des auteurs. Et des lieux de scène où des musiciens peuvent s'exprimer pendant tout un week-end. Et c'est assez facile d'organisation. En général, les gens ça les fait balader, ça les fait sortir, ça fait une sortie familiale. Il y a des rencontres entre les artistes et le public. Ça fait marcher le commerce. Tout le monde est content et c'est pas très lourd de mise en œuvre.
Cool, et ça aura lieu en octobre.
Voilà. Alors là, actuellement, justement, j'ai commencé à voir avec le service culturel de Saint-Marcellin. Je voudrais dire une chose qui est intéressante, c'est que nous avons une chance à Saint-Marcellin. Le service culturel est vraiment animé par des gens qui sont extrêmement positifs, accueillants et vraiment proactifs. L'accueil est vraiment excellent. Donc c'est vrai que bon, je les ai déjà rencontrés une ou deux fois. Et sur ce projet, j'ai bien senti que l'accueil était excellent. Voilà.
Super, donc ça va voir le jour.
Voilà, mois d'octobre. Il faut définir le week-end.
Ouais, bon, il n'y a plus qu'à. Bon, voilà, de toute façon, je pense qu'on vous réinvitera pour toi et Bix, je pense.
Avec grand plaisir,
pour en discuter.
Évidemment.
Voilà.
Et évidemment.
En tout cas, Jean-Yves, vraiment un grand merci pour tout ton témoignage, vraiment super intéressant.
C'est très
et puis,
gentil.
Encore une fois, je le répète, cette puissance, cette énergie que tu dégages. Non mais
merci.
Vraiment, c'est on sent l'expérience, on sent aussi que. Il y a eu du vécu, il y a eu des choses faciles, et malgré tout, il y a que de l'énergie positive qui sort de toi, et ça c'est génial.
Et j'y tiens.
Franchement,
t'y tiens.
Et ben en tout cas, le message est passé. Et,
merci Manuel.
C'est vraiment super cool. Merci à toi de ta venue.
Merci
en tout
beaucoup.
Cas. Bon, et ben super. En tout cas, merci à vous tous aussi de nous avoir suivis.